Yep, all ready.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, je vous parle de Romain Gary. Son portrait est tiré de la biographie de Myriam Anisimov, Romain Gary, le caméléon. Romain Gary, de son vrai nom Roman Cassiou, était un homme aux multiples visages. Il fascinait par sa prestance, son goût de l'aventure et de la mystification. Pourtant, il doutait souvent de son existence. La vérité ? Quelle vérité ? La vérité est peut-être que je n'existe pas, disait-il. Dans son roman « Europa » paru en 1972, il se dépeint sous les traits d'un diplomate souffrant de troubles de la personnalité. Voici ce qu'il écrit. Il se surprenait même parfois à lutter pour conserver son identité, son autonomie, et jusqu'à ses contours physiques, comme s'il y avait eu, penché sur lui, un peintre, un ingre qui ne transigeait pas avec la perfection, le contemplait d'un œil critique et, peu satisfait de l'œuvre, s'apprêtait à lui donner un coup de gomme et peut-être à l'effacer complètement. Au centre de ce trou noir, il y avait un cœur en fusion, celui de sa mère, Mina, à laquelle il vouait un amour sans limite, mais qui lui inspirait aussi parfois de la haine. Excessivement possessive, Mina avait si souvent prédit les étapes vertigineuses de la vie de son fils qu'il avait l'impression d'exister seulement par procuration. Elle refusait qu'il soit seulement Roman, l'enfant né de son mariage avec celui qu'elle considérait comme un simple géniteur. Gary avait compris ce qu'elle attendait de lui, c'est-à-dire tout. Qu'il fût à la fois un très grand écrivain, un très grand diplomate, ambassadeur de France, musicien de génie. Dans La promesse de l'aube, il écrit « Je ne pouvais voir le visage désemparé de ma mère sans sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance dans mon destin. Cette conviction ne m'était pas venue toute seule. Sans doute ne faisait-elle que refléter la foi que ma mère, dès sa naissance, avait placée en celui qui était devenu sa seule raison de vivre et d'espérer. » Pourtant, quand Mina lui demandait de lever les yeux vers elle, victime d'une sorte d'hallucination, au lieu de son fils, elle voyait un homme qu'elle avait aimé et qu'il avait sans doute abandonné. Souvent, avant de m'endormir, je voyais ma mère entrer dans ma chambre. Elle se penchait vers moi et souriait tristement. Puis elle disait « Lève les yeux ». Je levais les yeux. Ma mère demeurait penchée sur moi un long moment. Puis elle m'entourait de ses bras et me serrait contre elle. Je sentais ses larmes sur mes joues. Je finis bien par me douter qu'il y avait là quelque chose de mystérieux et que ces larmes troublantes, ce n'était pas moi qui les inspirais. La promesse de l'aube. Ma mère s'approcha de moi, prit mon visage entre ses mains, fixant chaque trait avec une attention étonnante, et les larmes se mirent à briller dans ses yeux. Un sentiment étrange de gêne s'empara de moi. J'eus soudain la sensation d'être quelqu'un d'autre. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Romain Gary n'avait pas de père. Celui-ci l'avait abandonné. L'écrivain s'en imagina un. Il passa toute sa vie à semer le doute. Selon les situations qu'il affrontait, il affirmait être d'ascendance polonaise, russe ou tartare. Il s'était aussi inventé des géniteurs de substitution, laissant planer le mystère sur leur nom. De toute façon, disait-il, l'homme dont il portait le nom, qui signifie « boucher » en hébreu, n'était pas son père. Contre toute attente, le célèbre acteur russe Ivan Mosjoukin, le plus improbable de tous, un homme qui n'avait jamais rencontré sa mère, sembla le plus crédible aux yeux des admirateurs de l'écrivain. Pourtant, Romain Gary savait très bien de qui il était le fils. Un négociant juif de Vilno. Il se sentait menacé par cette réalité. Dès sa plus tendre enfance, Gary a dû apprendre à vivre dans un monde hostile et dans des conditions précaires entre Vilno et Varsovie, deux villes de l'Empire tsariste, embrasées par de gigantesques pogroms, en proie aux convulsions de la guerre et de la révolution. La France, tant idéalisée, lui réserva d'autres épreuves auxquelles il répondit en s'adaptant, c'est-à-dire en effaçant ce qui pouvait le distinguer. Il revêtit avec bonheur l'uniforme d'aviateur de la France libre, puis de consul général. Plus vieux, dans les années de sa maturité, on le remarquait dans la rue. Il aimait porter toutes sortes de chapeaux et de vêtements excentriques. Mais il ne dédaignait pas le costume strict ou sa vieille vareuse bleu marine avec la croix de Lorraine sur la poitrine. Il semblait avoir accompli les vœux de sa mère, devenir un héros, capitaine de réserve dans les forces aériennes françaises libres, compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, écrivain adulé, deux fois couronné par le prix Goncourt sous deux noms différents, diplomate, cinéaste, grand reporter pour des magazines américains. Et comme le lui avait prédit sa mère, alors qu'il avait 13 ans, il avait eu beaucoup de femmes à ses pieds. Cependant, sous la carapace de la réussite et de l'arrogance, l'édifice était fragile, miné par les traumatismes de son enfance. Dans la nuit sera calme, Romain Gary écrit. Il y avait une fois un caméléon. On l'a mis sur du vert et il est devenu vert. On l'a mis sur du bleu et il est devenu bleu. On l'a mis sur du chocolat et il est devenu chocolat. Et puis, on l'a mis sur un plaid écossais et le caméléon a éclaté.
Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami.
Romain Gary eut recours à plusieurs pseudonymes pour publier ses romans. Gary, puis Folco Sinibaldi et surtout Émile Ajar, grâce auquel, fait unique dans l'histoire des prix littéraires, il remporta deux fois le prix Goncourt. Un bon tour joué au monde littéraire parisien. Concevoir et organiser cette mystification ne fut pas difficile pour Romain Gary. Pour lui, réalité et fiction ne font qu'une. La vérité ne peut être issue que de l'imagination et de la parole. Romain Gary était un conteur, à l'imagination en perpétuelle ébullition. Il lançait une première phrase, puis avançait librement vers l'inconnu, sans a priori ni limite. Il disait « Pour l'artiste, le réel ne sera jamais le vrai ». Ni la vie le vivant. Il mélangeait les genres et avait, dès la publication de son premier roman, irrité certains critiques qui lui déniaient le droit et la capacité d'écrire en français. Ceux qui, des années plus tard, lisaient encore Gary, devenu célèbre, avec condescendance, encensèrent La vie devant soi et Gros câlin. Enthousiasmé par l'originalité et l'audace du nouveau jeune auteur dont il se demandait bien qui il pouvait être, qui, en effet, se cachait derrière ce nom d'Émile Ajar. Les plus perspicaces proposèrent quelques noms illustres, mais personne ne devina que se cachait Romain Gary derrière ce nom, l'auteur de La promesse de l'aube. Romain Gary, pour brouiller définitivement les pistes, demanda même à son petit cousin Paul Pavlovitch d'endosser l'habit d'Émile Ajar. Paul Pavlovitch devint le seul Émile Ajar légitime. L'écrivain le considéra rapidement comme un imposteur, échappant à son autorité, mais il ne pouvait le dénoncer sans se démasquer. Sa propre mise en scène se refermait sur lui. Gary s'est condamné lui-même à l'ombre et à la solitude. Il est devenu lui-même une fiction en quête de réalité. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Romain Cassiou, alias Romain Gary, qui avait renoncé au nom de son père et fait l'impasse sur le monde dans lequel il avait grandi, s'était choisi une patrie, la France. La France mythique, celle du général de Gaulle, cette France pour laquelle il a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Gary se plaisait à dire « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». L'écrivain prétend être né en Russie, tantôt à Moscou, à Kursk, ou quelque part en Ukraine, tantôt dans un lieu indéterminé de la steppe. Il évitera toujours d'évoquer les zones où vivent des minorités juives. Mais qui lui reprochait d'être juif, sinon lui-même? Il fut l'amant discret de nombreuses femmes. Sans leur présence, la venue du crépuscule lui était insupportable. Il épousa Leslie Blanche, une célèbre romancière anglaise, voyageuse et extravagante, puis l'actrice Jean Seberg, disparue si tragiquement, et dont il eut un fils, Alexandre Diego. Malgré ses innombrables conquêtes, Gary n'était pas un don Juan, mais un homme pressé, timide, solitaire et angoissé. Dans les derniers mois de sa vie, il avait cessé d'écrire et se sentait assiégé par le monde réel qui le privait de son imaginaire. Désespéré, il ne savait pas comment faire face aux multiples problèmes générés par l'affaire Ajar. Cette mystification l'avait fragilisé. Elle engendrait une angoisse extrême et des situations que Gary jugeait insurmontables. Il songeait à la mort. Le 2 décembre 1980, après avoir déjeuné avec son éditeur Claude Gallimard, Romain Gary rentra chez lui, s'étendit sur son lit et se tira une balle dans la bouche. Il laissa ce message « Rien à voir avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. » En vérité, l'idée du suicide obsédait l'écrivain depuis longtemps. Dans de multiples brouillons sur des feuillets épars, il avait écrit cette phrase « Mes tendances suicidaires avaient cependant disparu et je n'avais plus envie de me supprimer en laissant ce mot d'explication. » Enfin authentique. Dans une lettre adressée à son avocat peu avant son suicide, Romain Gary avait donné des instructions au sujet de son décès. Il désirait être incinéré et que ses cendres soient dispersées en mer ou dans une forêt. Il avait dit à sa première épouse, Leslie Blanche, qu'il voulait que l'on répande ses restes dans la Méditerranée, au pied du vieux village de Roquebrune, où il avait acheté une maison. Après la crémation au Père Lachaise, Leslie trouva un pêcheur disposé à louer son bateau. C'est Alexandre Diego, le fils de l'écrivain, et sa dernière compagne, Leila Chelabi, qui partirent dans la petite embarcation. Dans la soirée, ils reprirent le train pour Paris, abandonnant l'urne chez Leslie Blanche. En la déplaçant, celle-ci entendit un léger bruit. Elle regarda et découvrit l'agrafe du pantalon de l'écrivain, qui avait résisté aux flammes. Le caméléon avait fini par éclater. Chers auditeurs, merci. J'espère que l'émission vous a plu. Elle sera rediffusée ce dimanche à 14h. Vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio B, celles consacrées à Haruki Murakami, mais aussi à J.D. Salinger, Virginia Woolf, Philippe Roth, Amélie Nothomb, Barbara Cartland, Émile Cioran, Marguerite Duras, Louis-Ferdinand Céline ou Françoise Sagan. La prochaine fois, je vous parlerai de Georges Perec, membre éminent de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, et auteur du fameux roman intitulé « La disparition », qui a pour particularité d'avoir été écrit sans utiliser une seule fois la lettre « E ». Bonne rentrée, bonne lecture et à très bientôt sur Radio B.